Radio Plus 104.3, vous êtes à l'écoute de l'émission L'heure flamande qui va commencer, préparée par Michel et Marie-Jo.
Alors, chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Et donc, aujourd'hui, à l'heure flamande, nous allons parcourir la côte flamande, mais cette fois, la partie sud de la côte flamande. On vous avait fait découvrir la partie nord il y a quelques jours. Et pour commencer cette émission, nous vous invitons donc à écouter ce joli poème écrit par un poète flamand de Bergue, Emmanuel Lauten. Écoutons donc ce poème.
Plage du Nord. Plage où roule la houle des sables, dure genêt, foisonnement aigu des oyas, dunes farouches, océan de vagues pétrifiées, par-dessus lesquelles sauvagement le ciel peine d'autres vagues pleines de force. Mer torte au rouleau d'écume renouvelée, sans cesse, et la puissante respiration des marées, pulsation étrangement vivante, l'onde et le sable et la nue. Champs anses, audoyant visage de nos plages avec leurs lèvres de dune, l'immense laisse de mer que battent les flots de leurs rangs serrés et moutonneux. Ciel mouvant, bourrelé de vent dur, lourde nue au charroi continué, et cette impalpable lumière de chez nous. Donc c'est un extrait d'un volume intitulé Clairnef en 1943, et donc poème Plage du Nord, écrit par Emmanuel Lauten, un poète né à Bergue en 1908.
Voilà, et donc nous allons découvrir donc la partie sud des côtes flamandes. Rappelez-vous, lors de l'émission du 3 juillet, nous avons fait découvrir la côte flamande de la Panne jusqu'à Knokke. Et cette fois, bien, nous allons faire le voyage dans l'autre sens, de Bredun à Waplage.
Wanneer de Noordzee koppig breekt aan Hoogduin en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn, wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in domme regelmaat. En bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keilier is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon, wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft of dampend het veld in juli zonlicht beeft, wanneer de zuidenwind er schatert door het kraan, wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
Je Jacques Brel, vous interpréterez « Mein Vaterland », mon plat pays, une chanson que vous connaissez certainement bien sûr en français, mais il ne faut pas oublier que Jacques Brel était de langue néerlandaise.
Et donc il sera question bien sûr de cette côte balayée par les vents de la mer du Nord. Nous avons fait découvrir donc lors de l'émission du 3 juillet la partie nord de la côte flamande, donc de Depane jusqu'à Knokk. Et vous pouvez bien sûr réécouter cette émission grâce au service podcast de Radio Plus. C'est un service que toutes les radios ne vous offrent pas. Donc alors n'hésitez pas à réécouter cette émission que vous avez pu ne pas pouvoir écouter pour des raisons professionnelles ou privées, peu importe, mais c'est aussi l'occasion pendant ces vacances de redécouvrir les émissions que vous aimez bien sur les ondes de Radio Plus. Et donc cette fois-ci, eh bien nous allons vous faire découvrir donc la deuxième partie de la côte flamande, la partie sud, donc qui s'étend de Bredune à Oiplage. Alors évidemment, nous n'allons pas emprunter l'autoroute la 16, hein, nous allons eh bien tout simplement flâner le long de la côte sur les chemins anciens, les anciennes routes qui vont vous faire découvrir donc cette côte flamande baignée par cet air iodé qui va vous requinquer, vous redonner plein d'énergie. Alors ici, nous allons donc partir de Bredune. Nous avons d'ailleurs déjà consacré une émission donc sur la cité de Bredune lors de l'émission du 27 mars. Et donc vous pouvez bien sûr donc réécouter service postcard. Nous allons plutôt ici nous attarder sur sa voisine, Zuidkot. La plupart sans doute à l'évocation de ce nom pensent bien sûr au film avec notamment Jean-Paul Belmondo. Ce film qui est issu donc du roman de Robert Merle, Week-end à Zuidkot, qui évoque bien entendu le drame de l'opération Dynamo. D'ailleurs, longtemps, et je me souviens quand j'étais gamin que j'allais jouer donc dans les dunes de Zuidkot, il n'était pas rare de tomber sur des restes de barbelés. On pouvait aussi retrouver dans le sable des douilles, parfois même des casques complètement rouillés. Et même un copain avait trouvé d'ailleurs une caisse de fusil complètement soudée par le sable et par l'eau de mer, bien entendu. Mais tout cela, c'est du passé et bien sûr, aujourd'hui, Zuidkot nous propose une superbe plage très large, idéale pour faire du char à voile et pour les enfants, bien sûr, faire des châteaux de sable. Zuidkot, au départ, était un petit hameau de pêcheurs très dynamique, mais la cité, malheureusement, aura été régulièrement ravagée par les tempêtes, par la fureur de la mer. Et je vous rappelle ici qu'une fois encore, eh bien, dans certains secteurs de la côte, eh bien, nous sommes en dessous du niveau de la mer, d'où toute l'importance de ce cordon dunaire qui protège, bien sûr, les terres de flanc de ce plat pays que vient de nous chanter Jacques Brel.
Sardine, fritteur à moule parquet, le slogan de Bruxelles. mensen huilen, zak kort schuren. En als ze door de tijd door drooien, dan is de noen al door met krooien.
In de Rue de Boucher, 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 in de Rue de Boucher.
Volle gaas en volle patrol, hey! Yeah! Dat is de chas, volle gaas!
Radio Plus 104.3, vous êtes à l'écoute de l'émission L'heure flamande, préparée par Michel et Marie-Jo.
Et donc aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir donc la partie sud de la côte flamande, donc de Bredune à Oaplage. Et donc nous visitons là actuellement donc le petit hameau de, enfin le petit hameau par le passé de Zuikot, qui était donc surtout un hameau de pêcheurs d'ailleurs qui avaient une belle réputation. Ce village, bien aujourd'hui certes, maintenant est plutôt synonyme de vacances avec ses nombreux campings, mais le village a eu des mésaventures, en particulier avec la mer, puisque en 1777 le village sera totalement détruit par l'invasion marine, et en 1888, soit à peu près un siècle plus tard, et bien c'est un raz-de-marée qui à nouveau va endeuiller la ville de Zuikot, et aussi donc très menacé dès lors que l'on ne protège pas son cordon dunaire, d'où l'importance que chacun d'entre nous, quand on visite ce site, de respecter bien sûr ces dunes qui sont en fait une véritable muraille de protection pour l'arrière-pays. La ville de Zuikot est aussi réputée pour son sanatorium qui a été construit à la fin du 19e siècle avec cette architecture typique de style néoclassique flamand. Ce sanatorium a été créé par un patron d'une des grosses entreprises de filature de Dunkerque. Il s'agit de Georges Van Coenberg, qui est né en 1853 et il est décédé en 1929. Ce sanatorium a aussi servi d'hôpital militaire durant justement cette opération Dynamo dont on a parlé tout à l'heure. Néanmoins, cet hôpital aura subi, malgré la croix rouge qui était peint sur son toit, malheureusement aura été quand même bombardé et une grande partie donc de ce sanatorium a été détruit. Donc il a été bien sûr reconstruit depuis et donc c'est toujours un centre de soins en particulier donc pour profiter de cette aire iodée typique d'une côte face à la mer du Nord. Et puis tout de suite à côté de Zuikot, eh ben, il y a un petit village qui s'appelle Gieveld.
Oh 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 oh. Assoyé, assoyé, assoyé. Oh 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 oh. Assoyé.
Een reisje ver weg bracht me op het juiste spoor. Dromen vriendschap en liefde overal om me heen. Ik hou van de gouden zon, de wuivende palmen als dit maar duren komt. Dromen, en dromen zijn realiteit door die ene trip naar de verre landen. Dromen, en dromen, nee ik heb geen spijt, het avontuur is hip. Mijn leven is veranderd, ik dans naar de vrijheid en vergeet de dag dat jij verdween.
Radio Plus 104.3, vous êtes à l'écoute de l'émission L'Heure Flamande préparée par Michel et Marie-Jo.
Et donc là maintenant nous arrivons à Guivelde. Alors Guivelde c'est synonyme de camping pour beaucoup d'entre nous, hein, puisque là on est tout près de la mer. Guivelde se situe à peine de 3 km de la côte. C'est une commune qui a particulièrement souffert lors de la Deuxième Guerre mondiale avec 90% de la commune qui aura été détruite lors de bombardements. L'église sera reconstruite et elle renferme un sanctuaire qui est consacré au bienheureux père Frédéric Jansson, qui a été c'est un franciscain qui est parti donc au Québec pour évangéliser en 1888. Il est l'auteur de nombreux ouvrages religieux. Il a été béatifié en 1988 par le pape Jean-Paul II. Vous pouvez d'ailleurs découvrir la biographie de ce père franciscain dans un ouvrage écrit par un bergois qui s'appelle Robert Note et que je salue ici. Donc, qui a consacré donc un ouvrage à ce grand personnage qui a été particulièrement aimé par les populations canadiennes. Nous quittons Guivelde pour nous rapprocher de Lefrancouc en longeant le canal de Furnes. C'est un canal qui relie donc la ville de Dunkerque à la ville de Furnes. Ce canal a été initié par l'archiduc Albert d'Autriche au début du XVIIe siècle. À l'époque, je vous rappelle que Dunkerque et Furnes n'étaient pas séparés entre deux États comme aujourd'hui, mais ils faisaient partie du même ensemble politique et juridique, à savoir les Pays-Bas, qui on appelait alors les Pays-Bas dits autrichiens. Le Lefrancouc donc remonte au XIIe siècle. C'est à l'époque donc un gros hameau qui connaîtra vraiment un essor très important avec la création de la célèbre usine des dunes. C'est une usine des dunes qui est donc consacrée à la métallurgie. Elle a été créée en 1911 par les aciéries et forges de Firminy, hein, donc Firminy qui se situe donc près de Saint-Étienne. Très vite, naturellement, cette usine attire du monde. Il faut loger, bien sûr, les familles et les familles d'ouvriers. Et nous assistons donc à la naissance de ces cités ouvrières qui sont d'ailleurs assez proches des corons du bassin minier. C'est ce qui donne cette caractéristique un peu particulière de cette commune de Lefrancouc avec donc cette architecture consacré donc aux familles d'ouvriers de l'usine des dunes, qui va compter d'ailleurs cette usine jusqu'à 3400 ouvriers. Aujourd'hui, eh bien, ils sont moins de 800, voire encore un peu moins si on en croit les dernières nouvelles. C'est une usine qui est particulièrement réputée pour sa fabrication d'essieux de roues pour les trains. Donc d'ailleurs, quand on longe le canal de Furnes, on peut apercevoir la silhouette de cette grande usine qui a fait bien sûr la richesse de la commune de Lefrancouc, et aussi qui était particulièrement réputée pour la qualité de son travail. Et hélas, aujourd'hui, eh bien, c'est la récession un petit peu, donc malheureusement, il n'y a plus autant d'ouvriers qui travaillent dans ce bel établissement. Lefrancouc, c'est aussi c'est un lieu aussi militaire. Il faisait partie de la ceinture de protection de Dunkerque, hein, avec en particulier donc le fort des Dunes, qui donc faisait partie de la ceinture de défense du port de Dunkerque. Et ce fut d'ailleurs, ce fort des Dunes, le théâtre de combats particulièrement durs entre les troupes allemandes et françaises en juin 1940.
Tussen Antwerpen en Rotterdam, op de snelweg naar het verre noorden, met de regen op mijn ruit en de radio half zacht, rijd ik op het ritme van gitaarakkoorden. De motor van mijn oude rammelbak doet al kreeg hij plots zilveren vleugels. Ik ben de woeste rijder en met een vaste hand trotseer ik het gevaar met strakke teugels. Tussen Antwerpen en Rotterdam, na middernacht en bij het ochtend gloren, ben ik als een god, maar dan volkomen onverwacht voel ik me in mezelf toch wat verloren. Terwijl de regen op mijn ruiten spat, ik door de velden raas zo onbezonnen, lijk ik wel ongenaakbaar, maar op dit stille uur ontwaakt in mij al vlug de kleine jongen. Dan denk ik vaak aan jou, jij die ik achterliet en die misschien nu ginder op me wacht. Dan weet ik ook zo goed hoe hulpeloos ik ben en dat ik jou toch niet meer missen kan. Antwerpen en Rotterdam, op de snelweg naar het verre noorden, met de regen op mijn ruit en de radio half zacht, hoor ik in mij deze gitaarakkoorden. Terwijl ik aan jou denk, jij die ik achterliet en die misschien nu ginder op me wacht, wil ik jou behoeden met het simpele lied en zeggen dat ik jou niet missen kan.
Radio Plus 104.3, et vous êtes à l'écoute de l'émission L'Heure Flamande, préparée par Michel et Marie-Jo.
Et donc nous vous faisons découvrir donc le sud de la côte flamande, donc de Bredune à Voie-Plage. Nous venons donc de passer à Lefrancouc, donc avec sa célèbre usine des Dunes et son fort des Dunes aussi, à aller voir qui a été le théâtre donc de combats particulièrement sévères en juin 40. Alors dépassons Dunkerque, que vous connaissez déjà, chers auditeurs, puisque vous avez pu découvrir Dunkerque lors de notre émission qui lui a été consacré le 12 septembre 2017, que vous pouvez donc réécouter via le service podcast de la radio. Arrêtons-nous donc dans une petite commune à Mardic. Mardic, qui veut dire en français digue de mer, et oui, encore une fois, comme je l'ai dit en début d'émission, nous sommes toujours donc sur cette côte flamande protégée par les dunes, mais régulièrement donc attaquée par les flots de la mer du Nord et par les vents, bien sûr, et donc ce cordon dunaire qu'il faut bien entendu protéger plus que jamais. Si aujourd'hui Mardic est une commune qui compte moins de 500 habitants, elle a connu par le passé une belle réputation puisque c'était un port de pêche particulièrement réputé. C'était d'ailleurs le premier port de pêche au Moyen-Âge qui ravitaillait alors tout le diocèse de Boulogne et de Ypres en poissons, en particulier du hareng. La comtesse de Flandre, d'ailleurs, Marguerite de Flandre, qui avait fondé l'hôpital de Seclin, avait octroyé à la ville de Seclin une obligation à la ville de Mardic de fournir jusqu'à 15 000 harengs par an donc, à la cité. Donc, c'est vous dire la puissance de pêche qu'avait ce port de Mardic à l'époque. Petit à petit, bien sûr, les pêcheurs de Mardic, au fil du temps, ont trouvé cette charge particulièrement lourde, hein, parce que c'était une rente qui était versée donc à la ville de Seclin, et ils ont dû négocier pendant plusieurs décennies pour réduire, bien sûr, cette charge qui pesait lourd sur leur activité. Mardic a un voisin qui s'appelle tout simplement Fort Mardic. Fort Mardic, comme son nom l'indique, était une forteresse militaire qui dépendait bien sûr de la commune de Mardic. Elle a été construite en 1622 par les Espagnols. Alors, quand on dit, bien sûr, espagnol, ça veut pas dire qu'il y avait que des soldats espagnols au sein de ce fort, évidemment. Je vous rappelle simplement que, à l'époque, nous sommes, bien sûr, dépendants du Royaume d'Espagne. Nous ne sommes pas un pays conquis par l'Espagne, mais simplement nous faisons partie donc de cet ensemble du Saint-Empire germanique, du Royaume d'Espagne, par les jeux donc d'alliance, d'héritage. Et donc la Flandre, à l'époque, est tout simplement donc espagnol, avec comme prince, hein, on en a parlé ici, donc de Charles Quint, de son fils Philippe II. Naturellement, ce port était construit pour défendre le port de Dunkerque, qui était particulièrement une menace contre le royaume de France, mais aussi contre l'Angleterre. La réputation des corsaires dunkerquois n'est plus à faire, et donc évidemment, ils hantaient la mer du Nord, et c'était la hantise des navires anglais comme des navires français. La bataille dite la bataille des dunes en 1658 est donc une victoire du maréchal Turenne sur les troupes espagnoles et qui met donc un terme à la vocation militaire de Fort Mardic. D'ailleurs, les Français vont donc raser une grande partie, bien sûr, des remparts et du fort pour le neutraliser totalement. Donc, la vocation donc de Fort Mardic change, ça devient, se tourne plutôt à un port, on va dire, qui va se tourner vers l'activité de la pêche comme sa voisine Mardic. Les familles flamandes d'ailleurs n'ont pas tellement apprécié bien sûr l'arrivée des Français qui était particulièrement répressive, mais pour faire face à cette fuite de population, les autorités françaises ont fait venir de nombreuses familles, en particulier des pêcheurs d'étables, des gens de Picardie. Et c'est ce qui fait que dans ce pays de langue flamande, on a entendu parler de plus en plus le Picard, donc qui était comme une sorte d'îlot de picardophone dans un pays qui était flamandophone. C'est donc avec Louis XIV qui va octroyer d'ailleurs à ses matelots, donc à ses pêcheurs, le droit de pêche, et qui va faire que ces pêcheurs seront particulièrement là aussi réputés pour leur activité, et en particulier la pêche en mer d'Islande, la pêche à la morue.
Van Brugge naar Damme, verscholen tussen lentegroen. Daar ligt een dorpje, lieflijk dorpje, met oude huisjes net als toen. Wat klei en wat polder, en mensen tussen wuivend graan, die om de beurt onder het schaften uit stenen kruiken drinken gaan. Maar vraag me niet waar dat te vinden, ik verklap het nooit mijn leven lang. Want tussen kruid en oude linden, daar dicht mijn hart zijn mooiste zang. Van Brugge naar Damme, gevat achter een zilveren vaart. Daar ligt een dorpje, lieflijk dorpje, men vindt het op geen enkele kaart. Men fluistert er sproken van edelridders fors en rijk, geharnast en met stalen helmen, als koningszonen al gelijk. Maar liever dan veel luchtkastelen, vol goudbrokaat en oud kantiek, koester ik daar op die kantelen mijn eigen dromen als reliek. Van Brugge naar Damme, daar schuilt mijn eigen klein geheim. Daar in dat dorpje, lieflijk dorpje, daar vond ik stof voor lied en rijm. Er tingelt een klokje, zo fris op smoele achternoen, als wou het gans de middeleeuwen nog eenmaal voor mij overdoen. Daar ligt mijn paradijs op aarde, mijn toekomst en verleden tijd. Daar heeft mijn leven zin en waarde, van gisteren tot eeuwigheid. Van Brugge naar Damme, ach, raden doet het toch geen eer. Dat lieve dorpje, liefste dorpje, dat hou ik slechts voor mij alleen.
Vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3 et l'émission L'heure flamande préparée par Michel et Marie-Jo.
Et donc nous longeons donc la côte flamande de Bredune à Bois-Plage. Alors justement, longeant donc cette côte flamande de Bredune à Bois-Plage, eh bien vous allez certainement remarquer de nombreux blockhaus qui datent donc de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, il y a un blockhaus un peu particulier sur le territoire de Lefrancouc qui a été entièrement recouvert de carreaux de vitres, hein, ça donne avec un jeu de lumière, de soleil, ce qui donne un aspect un peu artistique. Alors on aime ou on n'aime pas, là c'est une autre affaire, mais donc ce blockhaus est devenu une œuvre d'art. Mais bien sûr, au départ, c'était loin d'être le but de ces constructions qui aujourd'hui bien souvent ont subi eh bien les ravages du temps avec le jeu des mouvements de la mer, du vent. Beaucoup de blockhaus se sont déstabilisés, hein, on peut le remarquer. Certains ont pu être détruits, mais beaucoup sont, c'est beaucoup trop cher pour les détruire. Et donc, eh bien, évidemment, pourquoi tant de blockhaus le long de cette côte? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, les armées d'occupation étaient persuadées que les Anglais, les Alliés allaient débarquer, bien sûr, sur ces côtes de Flandre, toutes proches de l'Angleterre, hein, puisque, eh bien, quand on est, par exemple, à Calais et par temps clair, on voit, bien sûr, les falaises de Douvres, donc il n'y a jamais que 30 km en ligne droite donc entre les deux côtes. Donc en termes de stratégie militaire, on peut très bien comprendre pourquoi eh bien, les Allemands ont craint bien sûr un débarquement sur les côtes de Flandre entre bien sûr Bredune, Calais et un peu plus loin. Nous avons donc visité Fort Mardic, et bien juste à côté de Fort Mardic, et bien il y a la cité de Lonneplage. Alors Lonneplage, c'est une terre qui était conquise sur la mer au fil du temps, cette mer qui est venue petit à petit déposer des sédiments et qui forme une terre très marécageuse, riche en poissons, riche en tourbe, et qui a attiré donc les populations. Et donc ici, nous allons eh bien, écouter un poème, justement, à propos, puisqu'on parle beaucoup de la mer, eh bien, de cette musique de la mer, écrit par un poète, Amédée Prouvot. Donc écoutons donc ce poème.
La musique et la mer. Les étoiles au ciel s'allumaient une à une. Les mouettes d'argent rasaient le sable blond. Au loin, sur la mer lisse, ainsi qu'un lac de plomb, une barque estompait l'or de sa voile brune. La sonate pleurait ses accords à la lune. L'âme de Beethoven flottait dans le salon. L'adagio répandait comme un soupir plus long que les vagues berçant les blancheurs de la dune. Les plaintes du génie et les frênes des flots dans la même cadence abîmaient leurs sanglots étouffés d'indicibles tristesses. Et le cœur, dans les mois de rêves éperdus, brisé par la langueur de deux chants confondus, touchait aux infinis de l'humaine détresse. Donc, poème ici de Amédée Prouveau, né à Roubaix en 1877, décédé en 1909.
Voilà, donc le bruit de la mer, évidemment, puisqu'on longe la côte, donc on est arrivé ici donc à Lone Plage, donc une terre conquise sur la mer par le dépôt de sédiments. Lone Plage qui est, dépendait donc de la châtellerie de Bourbourg, toute proche, qui elle-même bien sûr dépend du comté de Flandre. Il faudra attendre le milieu du XVIIIe siècle pour que ce petit village prenne une réelle, un véritable essor, un réel développement. Là aussi, souvent, cette commune de Lone Plage était victime non seulement des inondations de la mer, hein, puisqu'on est toujours à des niveaux très très bas, mais aussi on est quasiment sur la frontière entre le royaume de France et le royaume d'Espagne. Et évidemment, c'est souvent des zones de bataille, d'incursions d'armées françaises pour ravager donc la frontière sud de la Flandre. C'est Lone Plage aussi qui va connaître là un essor important avec la culture de la chicorée, qui va donner là vraiment un essor économique important. Et aujourd'hui encore, on peut voir ces bâtiments assez typiques, construits en briques dites de sable, briques jeunes, avec qui sont surmontés donc de cheminées et qui servent bien sûr d'hangar pour le séchage de la chicorée. Et donc c'était une activité particulièrement importante. On peut aussi remarquer la couleur de la terre, qui est bien sûr une terre non pas noire, mais une terre un peu jaune, donc couleur un peu sableuse, et qui est propice bien sûr aux cultures maraîchères. En poursuivant, donc nous quittons donc Lone Plage et nous allons nous diriger cette fois vers une commune toute proche, Grandfort-Philippe. Alors il y a Grandfort-Philippe et Petitfort-Philippe. Alors pourquoi ce nom? Eh bien tout simplement, comme nous l'avons dit déjà plusieurs fois ici, c'est que ce secteur ne dépendait pas bien sûr du royaume de France, mais de l'Espagne. Alors, il n'y a jamais eu de roi en France qui s'appelle Philippe, Philippe Auguste, excusez-moi. On a ce port qui sera construit par les Espagnols et qui porte bien sûr le nom du roi Philippe IV d'Espagne, port qui a été construit au XVIIIe siècle. Les travaux ont commencé dès le XVIe siècle pour se terminer donc au XVIIIe siècle. Le but bien sûr de cette cité, encore une fois, c'est un port essentiellement militaire pour bien sûr servir en particulier de refuge aux navires espagnols pour se protéger bien sûr face aux attaques des navires anglais et français. Donc un port qui permet de réparer les navires, de les protéger contre les attaques des ennemis de l'époque. Comme quoi la vocation de cette côte flamande a toujours un aspect militaire. Ce n'est pas uniquement la Seconde Guerre mondiale, mais déjà au XVIIIe siècle, même un peu avant, c'était toujours une zone de conflit, de combat. Après la conquête par les Français, la ville perd bien sûr son rôle militaire puisque ils ont désarmé bien sûr la ville, et Grandfort et Petitfort-Philippe vont surtout avoir dès lors une activité de port de pêche, avec en particulier la pêche à la morue. C'est d'ailleurs une activité la plus importante de la commune aujourd'hui encore. On peut s'apercevoir que la cité est très attachée à cette vocation maritime. Et si vous vous rendez donc à Grandfort-Philippe lors des fêtes du 15 août, où les marins, en particulier au nord, les marins disparus en mer, eh bien vous allez pouvoir vous apercevoir que les nombreuses maisons sont décorées de filets de pêche, de petites chapelles dédiées bien sûr à la mer et aussi à la mémoire de tous ces marins qui ont sacrifié leur vie pour aller pêcher la morue en mer du Nord. L'église d'ailleurs de Notre-Dame de Grâce, qui a été construite en 1860, est consacrée bien sûr au monde de la pêche et dédiée à la mémoire bien sûr de tous ces pêcheurs disparus lors de leur expédition en mer du Nord.
Ken jij dat land dat ligt gevangen tussen buren, talen kan, tussen culturen zonder vast verband? Waar twee verschillende volken tegen wil en dank in één keurslijf zijn geprangd. De ene noemt het België en de andere Belgiek, alsof één kind ooit twee namen heeft. De tweespalt is duidelijk voor elke realist die niet in verstarring leeft. Ik ken zo'n land, maar het zal nooit het mijne zijn. Ik ken zo'n land, maar het zal nooit het mijne zijn. Ik ken zo'n land. Ken jij het land van compensaties, politieke willekeur, van gesjagger op grote schaal? Waar wordt gebrast met miljarden van de kleine Vlaamse man voor waardeloos waalstaal? Ken jij het land van de twee maten, twee gewichten, twee gezichten? Het recht is daar nog altijd op de dool. Waar de Vlaming al twee jaren moet smeken om zijn recht op een wettige kleine Vlaamse school. Ik ken zo'n land, maar het zal nooit het mijne zijn. Ik ken zo'n land, maar het zal nooit het mijne zijn. Ik ken zo'n land. Ken jij het land dat ligt te sterven, uitgezogen, uitgeput, een kadaver dat medelijden wekt? Maar ik zal niet om je wenen, van mij krijg je geen traan. Je hebt te veel wrok in mij verwekt. Ik zal ook niet dansen op jouw grap, want jouw cynisme had ik nooit. Een Vlaming houdt altijd zijn gulle lach. Hij kijkt naar de toekomst, naar de eerste ochtendzon. Na de nacht komt een nieuwe dag. Over een land, dat het mijne wel zal zijn. Over een land, dat het mijne wel zal zijn. Over een land, mijn Vlaanderland. Mijn Vlaanderland.
Radio Plus sur 104.3, bien plus qu'une radio. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo.
Et donc nous voyageons, nous vous emmenons donc de près d'une à Wapplage. Et donc nous sommes sur le secteur de Grand Fort Philippe et Petit Fort Philippe, donc qui ont une vocation maritime, qui ont donc une fête consacrée bien sûr au monde de la pêche et surtout à l'évocation de ces pêcheurs disparus en mer, donc en particulier des cérémonies lors du 15 août avec des jets de gerbes en mer, hein, donc possibilité bien sûr de les accompagner sur les bateaux de pêche avec la bénédiction de la mer. Et ici dans ce bassin minier, on peut bien mesurer combien le sacrifice de ces ouvriers de la mer est important, puisqu'on dit toujours pêcheurs et mineurs sont deux métiers très difficiles où nombreux ont sacrifié leur vie. Et on se rappelle ici bien sûr la catastrophe comme celle de Courrières en 1906 où plus de 1099 mineurs ont perdu la vie, comme plus récemment la catastrophe de Liévin, donc en 1974. D'ailleurs, sur le secteur, il y a une maison qu'on appelle la maison du sauvetage au bout d'une digue, suspendue d'ailleurs comme au-dessus de l'eau. C'est aujourd'hui d'ailleurs un musée consacré donc au sauvetage en mer, très très important donc sur ce secteur. D'ailleurs, du 28 au 30 septembre aura lieu la fête des Islandais au Hut. Hein, c'est un lieu dit tout près de Gravelines, où justement, eh bien, on évoque toute cette aventure des pêcheurs. Donc, ils allaient, comme on disait sur Dunkerque, pêche à Islande. Ensuite, eh bien, nous allons quitter donc le secteur de Lonne-Plage pour nous diriger vers un autre site, Wapplage, qui est le but de notre voyage. Eh bien, Wapplage, donc c'est là on quitte le département du Nord pour rentrer dans le Pas-de-Calais. Mais à l'époque, naturellement, Wapplage faisait partie de l'entité flamande. Il n'y avait pas de département, bien sûr, à l'époque. Les habitants de Waplage s'appellent les Ansériens. Si au XIXe siècle, Waplage était un port, disons, avec une activité toute moyenne, très vite, elle a perdu cette vocation puisqu'elle a été totalement ensablée. Elle a été, au cours de son histoire, bien sûr, comme malheureusement beaucoup de cités de notre région, victime de l'invasion des Vikings. Seul vestige d'ailleurs de l'ancienne commune, c'est la tour de l'église qui a été restaurée en 1953. Cette tour, elle date de 1553 et elle est 1553, elle avait d'ailleurs été construite par les Anglais. Je vous rappelle que le Flandre, Angleterre, et on est tout près de Calais, et il y avait une partie donc du secteur aussi qui servait, donc qui était une base de retrait des troupes anglaises. C'est ainsi qu'en 1346, plusieurs grands seigneurs anglais se sont fait enterrer donc à l'église Saint-Médard, donc de Waplage. Donc il faut bien se souvenir, se remettre dans la situation de l'époque où les frontières n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Alors durant la Seconde Guerre mondiale, ce secteur sera déclaré zone rouge par les Allemands, comme j'évoquais tout à l'heure. Et pourquoi ? Bien, tout simplement, quand on est sur la plage de Waplage, eh bien on s'aperçoit que c'est une vaste étendue qui est une large de à peu près 9 km. Qui est idéal bien sûr pour un débarquement, et bien sûr il y avait de nombreux blockhaus, et aujourd'hui on peut retrouver un des vestiges de ces blockhaus, une tour blockhaus d'ailleurs qui est penchée. C'est pas la tour de Pise, mais c'est un des vestiges donc de la ligne de fortification construite donc par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une, donc, comme je disais, une vaste plage qui est très très grande, où c'est l'idéal pour faire du char à voile. C'est ce qu'on appelle bien sûr le platier d'oie. Alors le platier d'oie, c'est une grande réserve pour les oiseaux migrateurs qui viennent se poser. C'est une zone qui est totalement protégée. Mais juste à côté, il y a une partie, un secteur qui, lui, ne l'est pas protégé. C'est une zone de chasse avec ses huttes. D'ailleurs, c'est assez particulier à voir, hein, avec une espèce de petit étang et une hutte. Et naturellement, comme vous l'imaginez, la cohabitation n'est pas toujours facile entre les défenseurs, bien sûr, de cette zone protégée des oiseaux et les chasseurs qui veulent bien sûr s'adonner à leur passion. Si vous vous promenez, je ne peux que vous inviter à vous promener donc sur le platier d'oie. Néanmoins, je vous recommande certaines précautions, parce que quand la marée monte, eh bien, il faut savoir que la mer, bien sûr, elle avance à pas d'homme. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes avec de jeunes enfants ou avec des poussettes, il vaut mieux rester sur la partie la plus sèche du platier d'oie, car évidemment, la mer, eh bien, évidemment, n'avance pas d'une ligne bien régulière. Il y a des petits monticules, on se croit protégé, mais malheureusement, la mer, eh bien, elle avance, elle vous encercle, et là c'est évidemment le risque d'un drame qui va gâcher le plaisir de la promenade. Aussi faire attention à ce qu'on appelle les bâches, hein, ce sont des trous, alors on ne les voit pas toujours parce qu'évidemment ils sont envahis par l'eau. Donc, mais le site naturellement, il est absolument magnifique, et tout, c'est d'être particulièrement prudent, surtout de suivre les recommandations qui sont données sur les divers panneaux le long de cette plage. Encore une fois, la marée, on l'a encore vu il n'y a pas longtemps, la marée peut être bien sûr dangereuse dès lors que on ne fait pas attention à son avance. Donc le platier d'oie, c'est un site aussi magnifique au niveau donc des plantations. Vous allez pouvoir retrouver des roses de sable, la salicorne et bien d'autres plaisirs des yeux, et aussi pour simplement se détendre, retrouver du calme et se laisser bercer uniquement par les bruits des vagues et le chant des mouettes, que moi je trouve particulièrement mélodieux, mais ça c'est le Dunkerquois qui parle. L'émission donc touche à sa fin. Eh bien, nous espérons que vous avez pu découvrir un petit peu cette côte flamande du sud, donc de Bredune à Voie-Plage, que je vous invite à visiter. Profitez des beaux jours de cet été pour justement découvrir ou redécouvrir ces sites magnifiques de notre côte flamande. Je vous souhaite une excellente semaine sur les ondes de Radio Plus.
Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je eigenlijk wel eens moeten doen. Je bent er vogelvrij, omdat er alles kan. Zo dichtbij en toch zo ver is Amsterdam. Want daar in Amsterdam ben jij zo ver van mij. Toch voel ik Amsterdam zo pijn. Dicht nabij. In het concertgebouw is het zeer dikwijls feest. Je weet toch nog dat zelfs Randy Newman daar ooit is geweest. Wie van ons vermoedde toen dat jij daar nu heen alleen een schuilplaats hebt gezocht, we gingen er altijd samen heen. Wie van ons is vogelvrij? Wie van ons die nog alles kan? Zo dichtbij en toch zo ver is Amsterdam. Want daar in Amsterdam ben jij zo ver. Zo pijnlijk dicht nabij.